trois petits coups, et puis s'en vont.
La quintessence de Vendredi Théâtre, le meilleur des derniers plateaux.
Vendredi Théâtre, ça continue. Nous ont rejoint sur le plateau Grazia. Bonjour Grazia.
Bonjour.
Robin, bonjour.
Bonjour.
Et je suis toujours avec Christopher. Et nous allons parler d'un spectacle, on passe de la lusophonie à l'Amérique latine, qui s'appelle Le Neveu d'Amérique, qui se déroule à Pierre-Tabar. Et j'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Luis Jaime Cortés.
Luis Jaime Cortés.
Voilà, je savais que j'allais me planter. Mais c'est ma spécialité d'écorcher les noms. Ah bonjour.
Bon. Bonjour. Bonjour.
Merci
à vous,
de...
à tous. Et bonjour aussi aux auditeurs de Radio Divergence.
Alors, Le Neveu d'Amérique, moi je ne l'ai pas encore vu le spectacle, mais tous les autres chroniqueurs l'ont vu. C'est tiré d'un roman de Sepúlveda, qui est un écrivain chilien.
Exactement, c'est un écrivain qui s'appelle Luis Sepúlveda aussi. Et le roman s'appelle Le Neveu d'Amérique. En français, le titre en espagnol, c'est Patagonia Express.
Ah oui.
Oui, et dans Patagonia Express, il fait allusion à un train qu'il y avait à l'époque en Patagonie, que je crois qu'encore existe, la Patagonie argentine et la Patagonie chilienne, qui faisait à peu près 300 kilomètres. Mais mettait 5 ou 6 heures pour faire 300 kilomètres, c'est pour cela le nom de Patagonia Express.
Alors qu'est-ce qui vous a poussé à adapter pour le théâtre ce roman ?
Bien, c'est un roman autobiographique de Sepúlveda. C'est un personnage qui a vécu les hauts et les bas de l'histoire, si on peut dire comme cela, particulièrement du Chili en Amérique du Sud. Eh bien, ce qui m'a convaincu que je devais jouer, adapter au théâtre ce roman, c'est que personnellement, j'ai vécu des choses. Et on a la pudeur de raconter des choses qu'on a vécues soi-même. Mmh. Et peut-être racontant les choses qu'autres ont vécues, on arrive aussi à pouvoir parler de ces choses qui sont très importantes dans la vie d'un être humain, en tout cas la mienne, et aussi, bien sûr, celle de Sepúlveda. Et en même temps, créer ou recréer, par le biais du théâtre, un devoir de mémoire. Et pour moi, c'est très important que la mémoire reste vivante pour éviter que les choses passent de nouveau et pour éviter que des choses vraiment tristes de l'histoire de l'Amérique latine qui se sont produites vers les années 70 dans des pays, pratiquement dans tous les pays de l'Amérique latine, puissent de nouveau réapparaître. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, l'espoir est grand, mais il y a des choses qui continuent à se passer et pas seulement en Amérique latine, sinon ailleurs, un peu partout dans le monde.
Grazia, tu as vu le spectacle ? Tu peux nous dire deux petits mots ?
Alors oui, j'avais voulu lire Patagonia Express en espagnol. Et franchement, j'ai eu beaucoup de mal avec l'écriture de Sepúlveda. Je ne suis pas rentrée dedans. Mais votre prestation, ça m'a vraiment réconciliée avec l'écrivain. Et je pense que je vais le relire. J'ai cherché un livre, j'ai encore un livre à la maison de lui. C'est une histoire de... Ça s'appelle Torero, je sais.
Torero, exactement, oui.
Exactement, hein, c'est ça. Mais bon, il est en français, donc j'ai commencé à le lire et je me suis dit, tiens, peut-être qu'il faudra le racheter, Patagonia Express en français, enfin Le Neveu d'Amérique, et le relire. Votre spectacle m'a ému, m'a fait rire, m'a fait sentir vivante. J'ai énormément aimé votre façon de bouger sur scène avec avec tout quoi. Vous êtes là, vous faites les 100 pas sur scène, vous bougez avec votre corps tout le temps. Vous faites énormément de mimiques. Tous les personnages que vous interprétez sont d'une réalité déconcertante. Voilà, ce que, d'ailleurs, vous dites à un moment donné qu'il y a 4 actes hein, dans ce spectacle. Et il y a plusieurs scènes. Et chaque scène reçoit un traitement théâtral particulier. Mmh. De quoi s'agit-il ?
Bon, avant tout, merci pour tous ces jolis compliments que je viens d'entendre. Bon, si effectivement, ma proposition fondamentale face au niveau d'Amérique a été toujours la suivante. Quand j'écris un livre, ou quand il y a un livre, le livre s'adresse à un lecteur. C'est-à-dire qu'il y a un moyen de communication très précis. Le lecteur est seul, isolé, et il a le livre et l'imagination. Le théâtre, ce n'est pas ça. Donc, ma préoccupation fondamentale a été toujours de faire la transposition d'un texte qui n'a pas été écrit pour le théâtre, parce que c'est un roman autobiographique, les donner ou trouver d'une manière ou d'une autre les langages qui correspondent plus au moment théâtral. Donc, ce n'est pas évident, justement, de retrouver ou de découvrir, plutôt, ces langages qui peut-être va faire partager à une assemblée de spectateurs. Normalement, j'ai joué les spectacles plusieurs fois. Donc, parfois, il y a des salles qui sont énormes au niveau du public. Il y a des salles qui ont moins de public. Mais il faut que je fasse la possibilité ou qui donne la possibilité de transformer le langage littéraire dans un langage théâtral. Donc, le théâtre, il y a la présence de l'acteur, il y a les moments présents, les présents. La présence et les moments présents, et la communication se fait ou ne se fait pas. Donc, c'est pour cela que j'essaie d'avoir tous les moyens d'accéder à cette théâtralité.
Avec vous, c'est impossible. Votre présence est débordante.
Oh bon, c'est encore, merci. Merci.
Robin, toi aussi, tu as vu le spectacle.
Et c'est vrai que la présence et les mouvements, c'est quelque chose qui nous touche directement. Et c'est par ça, j'ai envie de dire que vous faites cette transposition du littéraire au théâtre. C'est-à-dire que chaque parole est associée à un mouvement. Et on le voit bien, vous faites de grandes enjambées à laquelle vous associez à chaque fois une pensée. Et c'est vrai qu'il y a une transmission visuelle, vous captez notre attention. Et en associant la parole au texte, c'est une manière qui fonctionne très bien de faire passer ce texte au théâtre.
Mmh. Mmh. Si, je me suis toujours, disons, préoccupé pour trouver ce langage théâtral et surtout aussi pour faire une chose qui m'a énormément rendu content, heureux, c'est-à-dire des... pas seulement trouver un langage théâtral, sinon faire en sorte que par moment, des situations qui sont très difficiles dans les livres, qui sont des situations très difficiles sur scène, je puisse avoir toujours l'œil brillant, dirais-je, d'une certaine distance, pour ne pas rentrer totalement dans une espèce d'émotion débordante. Je veux toujours que ne pas rentrer dans cette dimension qui peut être très... très forte, mais bon, que les spectateurs terminent aussi avec son imaginaire.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, parce que c'est vrai que quand une émotion débordante nous prend, on rentre avec l'acteur dans cette émotion, et du coup, on oublie le reste, on oublie le contexte, on oublie ce qu'il vit, et on s'associe à une émotion. Et ça, c'est un risque de dispersion de la concentration et de l'attention du spectateur. Mmh. Et dans votre voyage que vous nous proposez, c'est vrai que c'est pas un voyage de plaisance. On est malmené, on est à la fois malmené, mais pas... Je veux dire, on est bousculé parce que c'est pas notre culture, parce que c'est pas l'histoire qu'on a entendue, et ce devoir d'histoire dont vous parlez, c'est vrai que moi j'opposerais, j'aime pas vraiment le terme de devoir d'histoire, de devoir de mémoire, pardon, mais il y a un devoir de mémoire individuel. C'est-à-dire que nous, on nous apprend l'histoire comme étant une succession de faits, une histoire officielle. Et là, à travers la littérature, à travers les rencontres et à travers le théâtre notamment, on a une autre dimension de l'histoire. On a une dimension de l'histoire qui est personnelle, qui est celle du vécu et qui nous permet de comprendre les choses on peut pas comprendre, la résistance des protagonistes si on comprend pas ce qu'ils ont vécu, si on comprend pas l'emprisonnement, si on comprend pas leurs émotions, leur rapport avec la famille. Et ça, c'est une dimension qui est prégnante dans votre travail de...
Oui, effectivement, je fais beaucoup d'attention à cela aussi, parce que effectivement, vous le dites bien, il y a quelque chose qui s'appelle l'histoire officielle. L'histoire officielle, c'est l'histoire racontée dans les livres d'histoire. Eh bien, ce que je raconte là, ce n'est pas une histoire officielle. C'est une histoire d'un vécu d'un homme qui s'appelle Luis Sepúlveda, et d'une certaine manière, dans d'autres circonstances, des choses. Je ne suis pas d'origine chilienne, je suis d'origine argentine. Donc, ce sont des choses que aussi, d'une manière ou d'une autre, je n'ai pas vécu exactement les mêmes choses, mais d'une certaine manière, il y a de grandes similitudes qui m'ont permis d'être plutôt objectif face à ce processus. Donc, ce sont des choses qui ont pu exister, ou qui existent, ou qui continuent à exister. C'est pour cela que je parle de mémoire, de devoir de mémoire.
Et devoir de mémoire que tout le monde se doit, enfin, voilà. Quel que soit son pays aussi, c'est pour ça que c'est intéressant de mentionner que vous n'êtes pas chilien, et ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas s'intéresser
exactement
à la mémoire chilienne.
Exactement.
Christopher, toi qui as une formation d'historien, tu as vu le spectacle aussi?
Bien sûr, hier j'ai beaucoup apprécié. Je ne vais pas revenir sur toutes les émotions ressenties. Je les ai ressentis aussi. Robin a mentionné le mot voyage. Je voulais revenir sur le thème même quand même de la pièce, qui est un énorme voyage à travers l'Amérique latine. Moi, personnellement, je me suis retrouvé dans différents pays. J'avais l'impression d'être sur place. Alors, c'est des voyages, c'est plusieurs petits bouts, je crois,
oui.
Associés. Alors, on passe par des situations cocasses. Qui sont hilarantes aussi. Alors, il y a des situations sérieuses, mais j'ai toujours l'impression que Sepúlveda garde quand même un certain optimisme à chaque fois qu'il ressort des difficultés de la vie, des difficultés de ses voyages, toujours en ayant un esprit de fraternité et d'avoir envie de profiter de la vie, d'aller de l'avant, à travers un voyage qu'on peut qualifier d'initiatique, hein.
Tout à fait, tout à fait. C'est exactement, et merci pour votre commentaire, parce qu'il s'agit d'un voyage initiatique, c'est-à-dire un voyage que tout le monde devrait faire à un certain moment de sa vie, parce que ça, on apprend énormément de choses à travers les voyages. Et dans les livres, dans la pièce, dans les livres de Sepúlveda aussi, il y a... une grande il parle beaucoup de grands écrivains comme Fenimore Cooper, comme Robert Stevenson, comme Jules Verne, comme Emilio Salgari, qui sont des écrivains, en tout cas ce qui me touche, que j'ai lu quand j'étais adolescent, comme vous tous j'imagine aussi, surtout Jules Verne. Et il y a des voyages là, hein.
Même avec à Stevenson la lune. Aussi.
J'ai une toute dernière question. À la fin, vous restez assis sur une chaise longtemps, et quand même votre regard, on est happé par votre regard. Mais est-ce qu'il est triste votre regard à la fin? Est-ce que c'est un regard comment? Parce qu'on est sidéré, on est médusé par votre regard.
Bon. Et s'il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce que je fais, dans ce métier que je fais, que c'est le théâtre, c'est quelque chose qui est lié à la rencontre avec l'autre. Accepter simplement comme nous sommes et nous regarder, pour moi, c'est quelque chose qui est déjà un énorme pas vers la connaissance de l'autre. Et on partage, le plaisir de partager. Je vous ai raconté une histoire d'un long voyage qui commence quand les gamins, son grand-père lui dit qu'un jour il doit aller à Martos, son grand-père, un exilé espagnol, anarchiste au Chili, et son petit-fils, donc Luis Sepúlveda, revient quelques années plus tard, par ces choses hauts et bas de l'histoire, à être un exilé politique en Espagne et visiter la ville où son grand-père est né, Martos en Andalousie, ça existe, je la connais. Et donc, voilà, c'est la rencontre. Pour moi, ça a été la rencontre d'abord avec les livres. J'ai eu la chance de connaître, de voir à plusieurs reprises Sepúlveda. Et aussi, c'est la rencontre chaque fois avec le public. Et la première chose qu'on fait quand on se rencontre avec quelqu'un, on se regarde et on partage.
Longuement.
Oui, longuement.
Je vais revenir au public. Quelles sont les réactions du public que vous avez une fois qu'ils ont vu le spectacle?
Très intéressant votre question. Je vais vous dire pourquoi. Il s'est arrivé, m'est arrivé de tout, hein, de tout. Mais il y a quelque chose qui m'avait énormément frappé. Une fois, c'était à Avignon, justement, dans le contexte du festival. À la fin du spectacle, j'attends le public. Parce que s'il a eu la patience de m'écouter et de me voir pendant une heure et demie, je dois le remercier. Donc, j'attends le public pour lui serrer la main à la sortie. Et je faisais ça et j'ai parlé un peu avec les gens. J'adore parler. À la fin, je parle toujours. Et il y avait un couple, il y avait quelqu'un qui ne sortait pas de la salle. J'étais dans la porte et il y a le régisseur qui me fait signe comme... Alors je rentre de nouveau dans la salle et je vois le couple qui était profondément ému. Le monsieur et la dame pleuraient simplement. Bon, je dis des mots, c'est un peu particulier, mais bon, je dis des mots pour essayer de les aider, etc. Mais je me suis dit dans ma tête, peut-être qu'ils sont des gens latino-américains qui ont vécu des choses similaires. Bon, quand la dame s'est calmée un peu, on a pu discuter et je lui ai posé la question si c'était des origines latino-américaines. Il m'a dit non. Nous avons vécu en Algérie pendant la guerre. Et c'est tout ce qu'il m'a dit. Et je suis resté bouleversé parce que ça veut dire que quelque part, il y a eu aussi des choses comme toute guerre qui ont dû se passer là. Et c'est le spectacle qui a remué tout ça dans leur mémoire. Et c'était très touchant, très touchant. Une des aventures que j'ai eues après du spectacle, mais il y a d'autres.
Oui, vas-y, Katia.
On peut dire deux mots sur les masques qui sont magnifiques.
Si, les masques, voilà. Chercher un élément théâtral. Quoi de plus théâtral que les masques?
Bien sûr.
Voilà. Mais c'était encore une anecdote super belle. Je travaille depuis des années avec un réalisateur de masques, avec un facteur de masques qui s'appelle Den, qui habite à Perpignan. Donc j'habite à Paris, on se voit de temps à autre. Et quand j'avais lu le livre de Sepúlveda, l'idée m'est venue de monter la pièce, de créer un spectacle de théâtre. Je n'avais pas encore rien écrit, mais je lui ai donné le livre et je lui ai dit, écoute, ça m'intéresserait d'utiliser des masques, mais fais ce que tu veux. Deux mois plus tard ou trois mois plus tard, il arrive à Paris et me dit, je t'ai apporté ça. Et c'était exactement ce que je voulais. Ce sont des quatre masques. En plus, il savait que je ne pouvais pas mettre les masques sur le visage comme on en a l'habitude, parce que ça prend du temps. Donc, il faut que j'arrive à changer tout de suite. Donc, ce sont des masques faits avec une tige à l'style vénitien, ouais. On appelle ça. Donc, je peux changer tout de suite pour changer de personnage. Et c'est lui qui a créé les masques, mais c'est juste... Tous les masques, par exemple, ont des moustaches. Et c'est très drôle parce que tous les latino-américains ont la moustache comme moi d'ailleurs.
On va rappeler que le spectacle s'appelle Le Neveu d'Amérique. C'est au théâtre Pierre Tabar. Décidément, une programmation assez exceptionnelle à Pierre Tabar, encore une fois. Donc, c'est à 21h, si je ne me trompe pas, jusqu'à dimanche.
Oui, et dimanche, c'est à 17h.
Et dimanche, c'est à 17h.
C'est à
voilà.
21h. Aujourd'hui, vendredi, et demain, samedi. Voilà.
Donc, a priori, l'équipe est tout à fait unanime pour ce spectacle. Courez-y.
Ouais.
Merci.
On va se séparer, puisque je vois que l'heure tourne. Gradia, tu nous as choisi quoi comme musique?
Eh bien, Volver, Adriana Varela.
Et on va se quitter donc avec ce morceau de musique. On vous souhaite une très bonne semaine théâtrale à tous et à la semaine prochaine. Et merci à notre invité de nous avoir accompagnés.
Non, merci à vous tous de m'avoir honoré venant à voir la pièce et m'inviter aujourd'hui à Radio Divergence.
À la semaine prochaine pour Vendredi Théâtre.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde el eco dijo: tuya es mi vida, tuyo es mi querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan en mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque lo olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra vivir.
Toutes les semaines, Vendredi Théâtre, l'émission qui assiste au spectacle et prend le temps d'en parler.